Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée du média suivant, la presse. Au programme, la beauté des mots intraduisible. Pour des chantiers plus inclusifs et un accord historique après des années de pourparlers. Bonne écoute.
La beauté des mots intraduisibles. Un texte de Léa Carrier, paru le 19 mars 2023 dans La Presse. Les Japonais ont un mot pour décrire la pile de livres qui accumule la poussière sur sa table de chevet. Tsundoku. Le sentiment d'aggraver une situation en tentant de l'améliorer? Les Allemands l'appellent Verschlimmbessern. Toutes les langues ont leur trésor intraduisible. Des mots qui évoquent une émotion complexe ou qui témoignent d'une manière de vivre sans équivalent en français. Récemment, le populaire dictionnaire américain Merriam-Webster a sondé ses abonnés sur Twitter. Quel mot parfait ne peut être traduit en anglais? A-t-il demandé. Et les réponses, qui s'élèvent à plus de 3000, sont savoureuses. Apapachar est un mot espagnol d'origine mexicaine qui vient de la langue nahuatl, qui signifie littéralement « étreindre avec l'âme », dit l'une d'elles. Mon grand-père utilisait le mot finlandais « sisu », fait partager un autre internaute. « Vous détestez faire une chose, mais elle doit être faite, alors vous la faites quand même », explique-t-il. Notre réponse préférée, « kabel salat », ou littéralement « salade de câble » en allemand, lorsque les câbles du téléviseur ou du routeur Wi-Fi s'en mêle dans un nœud. Toutes les langues regorgent de ces petits bijoux, a priori impossibles à traduire. La philosophe française Barbara Cassin, qui a dirigé l'essai « Dictionnaire des intraduisibles », parlait de mots qu'on n'arrête jamais de traduire. Ce sont des mots tellement riches qu'on n'a jamais fini de les traduire. Il n'y a pas une traduction possible. « Mais plusieurs », explique la professeure au département de linguistique et de traduction à l'Université de Montréal, Hélène Buzelin. Ces expressions farfelues peuvent faire sourire ou charmer, mais elles ont une réelle fonction pour leur locuteur. Les mots répondent à des besoins communicatifs, rappelle la professeure au département de linguistique à l'Université du Québec à Montréal, Elizabeth Allen Smith. On va développer des mots précis pour des concepts qui sont d'une utilité pour nous, explique-t-elle. Résultat, les mots intraduisibles sont souvent le reflet des valeurs et des préoccupations de leur société d'origine. L'expression portugaise « saudade » est un exemple célèbre. Profondément ancré dans l'histoire et la culture du pays, il exprime un sentiment complexe entre la mélancolie, la nostalgie et l'espoir. La langue française possède aussi des mots propres à son contexte culturel, note Madame Smith. Au Québec, une personne sensible au froid est frileuse, donne-t-elle en exemple. En France, flâner est un art de vivre. Il arrive que des mots soient aussi difficiles à traduire simplement parce qu'ils sont polysémiques, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs sens. Par exemple, le terme « care » en anglais peut signifier « se soucier », « s'intéresser » ou encore « ressentir de l'affection pour quelqu'un ou quelque chose », selon le contexte. Le concept de « caring » n'a pas vraiment d'équivalent en français, si on devait traduire tous les sens dans lesquels on peut l'employer, constate Hélène Buzelin. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a souvent l'impression que l'anglais a un mot pour tout. L'anglais figure parmi les langues avec le plus d'entrées dans le dictionnaire. Et la raison est historique, explique la professeure Elizabeth Allen Smith. À l'origine, une langue germanique, l'anglais a fortement interagi avec le français, langue dérivée du latin, après la conquête normande de l'Angleterre en 1066. C'est une langue kleptomane qui vole beaucoup de mots et interagit avec beaucoup de langues, ajoute Madame Smith. L'allemand est aussi une langue propice aux mots intraduisibles, mais pour une raison purement syntaxique. C'est une langue qui fait beaucoup de mots valises dans lesquels ils peuvent mettre plein de concepts ensemble, explique-t-elle. Les langues ne sont pas symétriques. Il n'y a presque jamais un équivalent parfait entre deux mots, résume Hélène Buzelin. L'écrivain italien Umberto Eco disait que traduire n'est jamais que dire presque la même chose. Même que la traduction est souvent considérée comme une épreuve, ajoute Madame Buzelin. Elle consiste à transplanter un texte qui est né dans un contexte culturel, historique et linguistique pour le rendre accessible à un autre lectorat, explique-t-elle. Or, certains mots résistent à la traduction, note-t-elle, et causent des maux de tête aux traducteurs, qui n'ont pas le choix de trouver une solution. En tant que traducteur littéraire, on ne peut pas refuser de traduire la moindre phrase d'un texte. On se doit de respecter le texte intégral, souligne Eric Reyes Roher, traducteur franco-mexicain, qui a signé la traduction de l'espagnol au français du roman « Tombé », publié chez Mémoire d'Encrier. Heureusement, il existe des stratégies lorsqu'un traducteur se bute à un terme sans équivalent apparent. Lorsque le mot renvoie à une réalité culturelle, par exemple « cégep », il peut simplement laisser le mot tel quel ou le traduire de façon littérale. Le problème est que ça risque de ne pas être compris par le lectorat. Souvent, ce qu'on va faire, c'est mettre une explication, souvent dans le corps du texte, précise Hélène Buzelin. Il est également possible de remplacer le mot par une expression plus générique, en acceptant de perdre certaines subtilités lors du transfert vers l'autre langue. Ce qui n'est pas un mot en français aujourd'hui peut le devenir un jour. Les propriétaires d'une langue sont ses locuteurs, pas ses institutions comme l'Académie française ou l'Office québécois de la langue française, souligne Elizabeth Allen Smith. Calqué sur le nom anglais « serendipity », le mot « sérendipité » est aujourd'hui accepté en français. Il désigne, dans une jolie consonance, le fait de faire une découverte, scientifique notamment, par hasard. Nos besoins communicatifs changent et c'est nous qui décidons ce qu'on va emprunter ou non, conclut Madame Smith. C'était « La beauté des mots intraduisibles », un texte de Léa Carrier, paru le 19 mars 2023 dans La Presse. Thank you. pour des chantiers plus inclusifs. Un texte de Yvette Rambourg, paru le 25 mars 2023 dans La Presse. Bien qu'un changement de culture soit en marche, les femmes demeurent largement sous-représentées dans l'industrie de la construction. Les femmes racisées encore plus. Une réalité que souhaite changer Yvette Rambourg, une charpentière menuisière, au parcours hors de l'ordinaire. Mon parcours, c'est celui d'une femme moderne qui écrit son histoire. Une histoire souvent difficile et exigeante, souvent brillante et heureuse. Mon histoire est aussi celle de millions de femmes autour du monde. Nous a écrit Yvette Rambourg dans un courriel avant notre rencontre qui a eu lieu quelques jours après la Journée internationale des droits des femmes. Bien que son histoire soit aussi celle d'autres femmes qui ont fait leur chemin, le parcours de cette lauréate d'un prix « Chapeau les filles » en 2022 n'a rien de typique. Née d'un père palestinien et d'une mère israélienne, elle a quitté Nazareth il y a 22 ans pour poursuivre des études en français à l'Université Western Ontario, dans le cadre desquelles elle s'est notamment intéressée à la Révolution tranquille. Un séjour linguistique à trois pistoles a scellé son amour pour le Québec, où elle s'est établie, après avoir appris à tricoter des pantoufles en fentex et les rouages du tissage. Pendant 13 ans, Yvette Rambourg a été consultante auprès d'organismes sans but lucratif en lien avec le financement et la gouvernance. Après avoir constaté la vétusté des bâtiments dans lesquels plusieurs étaient installés et lasse du travail devant un écran, elle a entamé des études professionnelles en charpenterie-menuiserie. « Je n'étais pas vraiment manuelle, à part remplacer des piles et changer des ampoules. Mais mon père était garagiste. Il m'a beaucoup inspirée », raconte Yvette Rambourg. C'est d'ailleurs un mythe qu'elle souhaite déboulonner. Celui voulant qu'on doive savoir tenir une scie et un marteau pour devenir une travailleuse de la construction. Elle a appris et continue à apprendre. Vous ne le savez pas, mais je vais devenir la meilleure charpentière menuisière au Canada. Pour vrai, je travaille très fort pour y arriver. Yvette Rambourg nous reçoit dans les locaux de la coopérative Main-d'œuvre, MDO, un entrepreneur général qui fonctionne sur le modèle coopératif et dont plusieurs membres sont des femmes. L'inclusivité est importante pour moi, de même que la souplesse en termes d'horaire, souligne cette mère de trois enfants qui travaille au sein de cette coop comme charpentière menuisière depuis septembre. Sur les chantiers, elle pose des questions. Il faut être à l'écoute du client et se faire propulser par du cœur, pas juste par l'argent et le profit. Quand on touche à un bien de quelqu'un, à la maison, moi qui viens d'un pays de guerre, c'est quand même sérieux. C'est important. C'est personnel. Par son parcours et sa vision, elle souhaite inspirer d'autres femmes, particulièrement les femmes racisées, à envisager une carrière dans la construction. Il faut vaincre ses peurs. La plus grosse montagne, c'est entre les deux oreilles. Des comportements à changer. Mais l'autre montagne, c'est le milieu lui-même qui, selon elle, doit évoluer. La formation également, remarque celle qui a obtenu en 2018 un diplôme d'études professionnelles en charpenterie-menuiserie, puis une attestation de spécialisation professionnelle en gestion-entreprise de la construction. J'ai changé d'école en cours de DEP parce que c'était très difficile où j'étais. J'étais la seule fille. Souvent, je n'avais pas de partenaire. Les hommes, normalement, ne veulent pas travailler avec les femmes. Ils m'ont nommée la plotte, Et moi, qui ne suis pas québécoise de souche, je ne savais pas ce que ça voulait dire. On m'a dit, « C'est normal que la fille travaille seule. » « Non, ce n'est pas normal, » affirme Yvette Rambourg. Yvette Rambourg prône la création d'une formation mieux adaptée aux femmes. Elle participe d'ailleurs à la mise sur pied d'un projet pilote à l'initiative de MDO pour le démarrage d'un programme de 12 semaines. Baptisé « Bottines et tournevis », celui-ci permettra de former des femmes de façon théorique et pratique, à travers la rénovation de 3 salles de bain. Pour avoir plus de femmes dans l'industrie et répondre à la pénurie de main-d'œuvre, il va falloir qu'on modifie des choses, croit Yvette Rambourg. Rendre le milieu plus accueillant envers les personnes issues de la diversité en fait aussi partie. Je n'ai pas l'accent québécois, donc on me repère tout de suite. Heureusement, mon prénom, c'est Yvette. Il faut démystifier les préjugés. Souvent, on ne forme pas les autres sur la manière d'intégrer quelqu'un de minoritaire. Est-ce que c'est correct qu'on m'appelle la petite noire? Ou est-ce que c'est raciste? Il y a un apprentissage et il faut créer un espace sécuritaire pour en parler ouvertement. La réalité pour les femmes, c'est que ça s'améliore. Mais on part de loin, observe Mathieu Riendeau, entrepreneur général et initiateur du projet de la coopérative Maître d'œuvre. On voulait atteindre 3 % de femmes sur les chantiers et on l'a atteint en 2022, 3,64 % selon la CCQ. Mais il y en a beaucoup qui repartent. C'est un milieu traditionnellement masculin dans lequel il y a des comportements toxiques et où ces comportements peuvent encore être valorisés. Ce que ça veut dire pour une femme, c'est qu'il peut y avoir des comportements inadéquats, trop caring ou pas respectueux. Tu peux te faire petite madamisée, selon Mathieu Riendeau. Se disant consciente qu'il reste du travail à faire, la Commission de la construction du Québec, CCQ, indique qu'elle s'affaire, avec les partenaires de l'industrie, à adopter de nouvelles mesures pour favoriser la rétention des femmes. Elles sont plus nombreuses à partir après 1 an que les hommes, à augmenter leur diplomation. Elles entrent principalement dans l'industrie par bassin, donc sans diplôme, et à offrir un climat de travail sain et inclusif, a déclaré par courriel à la presse Marie-Noëlle Deblois, conseillère aux affaires publiques à la CCQ. Et bien qu'elle ne possède pas de données sur les travailleurs racisés, la CCQ travaille aussi sur différents projets pour faciliter leur intégration et augmenter leur présence sur les chantiers, ajoute cette dernière. Yvette Rambourg est optimiste. Ça va changer. Je suis convaincue qu'ensemble, on va arriver à quelque chose de beau. Yvette, c'est une battante, constate Mathieu Riendeau. Elle a connu un pays en guerre. Elle a connu plein de choses qui font qu'elle a une énergie vitale qui lui permet de faire son chemin et de persévérer dans ce qu'elle entreprend. Quand elle dit « Je vais devenir la meilleure menuisière du Canada », elle le pense vraiment. Et elle va travailler pour ça. Ça veut dire quoi dans sa tête? Ce n'est pas comme s'il y avait des Olympiques, mais ça veut dire qu'elle va pouvoir se retrouver dans n'importe quelle situation et savoir comment agir. C'est un méga empowerment. Menuisière, tu peux arriver n'importe où et te construire une maison. Ce n'est pas rien. 7202. Nombre de femmes dans l'industrie de la construction au Québec en 2022, soit 3,64 % de la main-d'œuvre totale. Un sommet historique, selon la CCQ. 2,5 % proportion de femmes occupant le métier de charpentier-menuisier en 2022 au Québec. En comparaison, 24,7 % des peintres sont des femmes. Source, Commission de la construction du Québec, CCQ. C'était, pour des chantiers plus inclusifs, un texte de Yvette Rambourg, paru le 25 mars 2023 dans La Presse.
Un accord historique après des années de pourparlers. Un texte de Éric-Pierre Champagne, paru le 11 mars 2023 dans La Presse. Un premier traité international de protection de la haute mer a été adopté le 4 mars 2023 par les pays membres des Nations Unies. Une entente qualifiée d'historique au moment où la santé des océans est menacée par le réchauffement planétaire, la pollution plastique, la surpêche et l'exploration minière des fonds marins. Le nouvel accord est intervenu après plus de 15 ans de discussions, dont 4 années de négociations formelles entre les États membres de l'ONU. Il doit cependant être entériné par les quelques 190 pays membres avant d'entrer en vigueur. Qu'est-ce que la haute mer? Ce sont les eaux internationales qui commencent à la limite des zones économiques exclusives des États, soit à 370 km des côtes. La haute mer représente plus de 60% des océans. Surtout, elle constitue près de la moitié, 45%, de la surface de la Terre. Environ 1% des eaux internationales sont actuellement l'objet de mesures de protection. Avec cette nouvelle entente, des aires marines protégées pourraient être créées en haute mer. Rappelons que le nouveau cadre mondial pour la biodiversité, adopté à Montréal en décembre dernier, prévoit de protéger 30% des océans. Depuis le début de la révolution industrielle vers 1750, les océans ont absorbé environ le quart des émissions de CO2 relâchées dans l'atmosphère. Ils ont aussi absorbé presque tout l'excès de chaleur occasionné par la hausse des gaz à effet de serre, soit 93% au cours des 40 dernières années. Bref, sans les océans, les effets du réchauffement planétaire seraient encore plus importants. Le hic, en jouant ainsi le rôle d'éponge climatique, les océans s'acidifie et se réchauffe, ce qui modifie profondément certains écosystèmes marins. Si les banquises en Arctique et en Antarctique reflètent jusqu'à 90% des rayons du soleil, l'océan, lui, les absorbe jusqu'à 90%. Les changements climatiques se traduisent ainsi par un cercle vicieux à teneur exponentielle. Le réchauffement des océans fait fondre la banquise. La fonte de celle-ci diminue la superficie des surfaces blanches capables de refléter les rayons du soleil. Les océans absorbent alors encore plus de chaleur, ce qui accélère la fonte des glaces. Vous suivez toujours? Selon l'ONU, environ 90% des populations d'espèces de poissons exploitées commercialement sont épuisées ou en voie d'épuisement. Si les réserves terrestres de nickel sont estimées à 230 millions de tonnes métriques, celles situées au fond des océans sont évaluées à 306 millions de tonnes métriques. Or, la demande pour ce minerai est à la hausse, notamment pour assurer la production de voitures électriques. C'est le cas aussi pour le cobalt et les terres rares, dont les réserves sous-marines sont très largement supérieures à celles qu'on retrouve sur Terre. Appelée la zone de Clarion-Clipperton, cette fracture géologique, longue d'environ 7200 km, possède une superficie de 4,5 millions de mètres carrés, soit presque trois fois la superficie du Québec. À une profondeur de 4 000 à 5 000 mètres, on y retrouve des quantités importantes de cobalt, de terres rares, de nickel et de manganèse. Plusieurs permis d'exploitation minière ont été délivrés par l'Autorité internationale des fonds marins ces dernières années. Plusieurs scientifiques et groupes environnementaux appellent à la prudence quant à l'exploration minière des fonds marins. Ils invoquent notamment le peu de connaissances de ces zones, plus difficiles à explorer que les milieux terrestres. Dans ces circonstances, les impacts des activités minières, par exemple, pourraient être sous-estimés faute d'informations. L'un des éléments les plus importants du nouvel accord, c'est qu'il prévoit l'obligation de réaliser des études d'impact sur l'environnement pour des activités envisagées en haute mer, dans des zones qui échappent aux juridictions nationales. C'était un accord historique après des années de pourparlers, un texte de Éric-Pierre Champagne, paru le 11 mars 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.